Henri Merle d'Aubigné, Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 8, Les Suisses, 1484 à 1522. Chapitre 1. Mouvement en Suisse, source de la Réformation, caractère démocratique, service étranger, moralité, le Toggenburg, un chalet des Alpes, une famille de pâtres. Au moment où parut le décret de la diète de Worms, un mouvement toujours croissant commençait à ébranler les tranquilles vallées de la Suisse. Aux voix qui se faisaient entendre dans les plaines de la Haute et de la Basse-Saxe répondaient, du sein des montagnes helvétiques, les voix énergiques de ces prêtres, de ces pâtres et des bourgeois de ces belliqueuses cités. Les partisans de Rome, saisis d'épouvante, s'écriaient qu'une vaste et terrible conjuration se formait partout dans l'Église contre l'Église. Les amis de l'Évangile, remplis de joie, disaient que, comme au printemps le souffle de la vie se fait sentir des rives de la mer jusqu'au sommet des monts, ainsi l'Esprit de Dieu fondait maintenant dans toute la chrétienté les glaces d'un long hiver et recouvrait de verdure et de fleurs depuis les plus basses plaines jusqu'aux rochers les plus arides et les plus escarpés. Ce ne fut pas l'Allemagne qui communiqua la lumière de la vérité à la Suisse à la France à l'Angleterre. Tous ces pays la reçurent de Dieu, de même que ce n'est pas une partie du monde qui transmet la lumière à l'autre, mais que le même globe éclatant la communique immédiatement à toute la terre. Infiniment élevé au-dessus des hommes, Christ, l'Orion d'en haut, fut à l'époque de la Réformation, comme à celle de l'établissement du christianisme, le feu divin d'où émana la vie du monde. Une seule et même doctrine s'établit tout à coup au XVIe siècle dans les foyers et dans les temples des peuples les plus lointains et les plus divers. C'est que le même esprit fut partout, produisant partout la même foi. La Réformation de l'Allemagne et celle de la Suisse démontrent cette vérité. Zwingli ne communiqua pas avec Luther. Il y eut sans doute un lien entre ces deux hommes, mais il faut le chercher au-dessus de la terre. Celui qui du ciel donna la vérité à Luther la donna à Zwingli. Ils communiquèrent par Dieu. « J'ai commencé à prêcher l'Évangile, dit Zwingli, l'an de grâce 1516, c'est-à-dire en un temps où le nom de Luther n'avait encore jamais été prononcé dans nos contrées. Ce n'est pas de Luther que j'ai appris la doctrine de Christ, c'est de la parole de Dieu. Si Luther prêche Christ, il fait ce que je fais, voilà tout. » Mais si les diverses réformations tinrent du même esprit dont elles émanèrent toutes une vaste unité, elles reçurent aussi certains traits particuliers des divers peuples au milieu desquels elles s'accomplirent. Nous avons déjà esquissé l'état de la Suisse à l'époque de la Réformation. Nous n'ajouterons que peu de mots à ce que nous avons dit. En Allemagne, le principe monarchique dominait. En Suisse, le principe démocratique. En Allemagne, la Réformation eut à lutter avec la volonté des princes, en Suisse, avec la volonté du peuple. Une assemblée d'hommes, plus facilement entraînée qu'un seul, prend aussi des décisions plus promptes. La victoire sur la papauté, et qui coûta des années au-delà du Rhin, n'eut besoin en deçà de ce fleuve que de mois ou de jours. En Allemagne, la personne de Luther s'élève imposante au milieu des populations saxonnes. Il semble être seul à attaquer le colosse romain, et partout où le combat se livre, nous découvrons de loin sur le champ de bataille cette haute stature. Luther est comme le monarque de la révolution qui s'opère. En Suisse, la lutte s'engage à la fois dans plusieurs cantons. Il y a une confédération de réformateurs. Leur nombre nous étonne. Une tête s'élève sans doute au-dessus des autres, mais nul ne commande. C'est une magistrature républicaine où tous se présentent avec des physionomies originales et des influences distinctes. C'est Wittenbach, c'est Zwingli, c'est Capiton, c'est Haller, c'est Ecolampade, ce sont Oswald Mikonius, Léon Judas, Farel, Calvin, c'est à Glaris, à Bâle, à Zurich, à Berne, à Neuchâtel, à Genève, à Lucerne, à Schaffhouse, à Appenzell, à Saint-Gall, dans les Grisons. Il n'y a dans la Réformation d'Allemagne qu'une Seine, une et plane, comme le pays. Mais en Suisse, la Réformation est divisée comme la Suisse l'est elle-même par ses 1000 montagnes. Chaque vallée a pour ainsi dire son réveil et chaque hauteur des Alpes ses clartés. Une époque lamentable avait commencé pour les Suisses depuis leurs exploits contre les ducs de Bourgogne. L'Europe, qui avait appris à connaître la force de leurs bras, les avait sortis de leurs montagnes et leur avait ravi leur indépendance en les rendant dispensateurs sur les champs de bataille du sort de ces États. La main d'un Suisse brandissait l'épée contre la poitrine d'un Suisse aux plaines d'Italie et de France, et l'intrigue des étrangers remplissait de discorde et d'envie ces hautes vallées des Alpes, si longtemps le théâtre de la simplicité et de la paix. Attiré par le brillant de l'or, fils, journalier, valet, quittait à la dérobée le chalet des pacages alpestres pour courir sur les bords du Rhône ou du Pô. L'unité helvétique s'était rompue sous les palans des mulets chargés d'or. La Réformation, car dans la Suisse elle eut aussi un côté politique, se proposa de rétablir l'unité et les vertus antiques des cantons. Son premier cri fut pour que les Suisses déchirassent les filets perfides des étrangers et s'embrassassent dans une étroite union au pied de la croix. Mais sa voix généreuse ne fut pas écoutée. Rome, accoutumée à acheter dans ses vallées le sang qu'elle versait pour accroître son pouvoir, se leva avec colère. Elle excita des Suisses contre d'autres Suisses. De nouvelles passions surgirent et déchirèrent le corps de la nation. La Suisse avait besoin d'une réformation. Il y avait, il est vrai, chez les Helvétiens, une simplicité, une bonhomie que les Italiens raffinés trouvaient ridicule. Mais en même temps, il passait pour le peuple qui transgressait le plus habituellement les lois de la chasteté. Les astrologues l'attribuaient aux constellations, les philosophes à la force du tempérament de ces peuples indomptés, les moralistes au principe des Suisses qui regardaient la ruse, le manque d'honnêteté, la calomnie comme des péchés beaucoup plus graves que l'impureté. Le mariage était interdit aux prêtres, mais il eût été difficile d'en trouver un qui vécût dans un vrai célibat. On leur demandait de se conduire non chastement mais prudemment. Ce fut un des premiers désordres contre lesquels s'éleva la Réformation. Il est temps de retracer les commencements de ce jour nouveau dans les vallées des Alpes. Vers le milieu du XIe siècle, deux solitaires s'avancèrent de Saint-Gall vers les montagnes qui sont au sud de cet ancien monastère et arrivèrent dans une vallée déserte d'environ 10 lieues de long, le Toggenburg. Au nord, les hautes montagnes du Saintis, le Sommerikopf et le Vieux-Homme séparent cette vallée du canton d'Appenzell. Au sud, le Rüffirsten avec ses 7 têtes s'élève entre elles et la Valensee, Sargan et les Grisons. Du côté de l'Orient, la vallée s'ouvre aux rayons du soleil levant et découvre l'aspect magnifique des Alpes du Tyrol. Les deux solitaires, arrivés près de la source d'une petite rivière, la Thur, y bâtirent 2 cellules. Peu à peu, la vallée se peupla. Sur la partie la plus élevée, à 2010 pieds au-dessus du lac de Zurich, se forma autour d'une église un village nommé Wildhaus ou la Maison Sauvage, dont dépendent maintenant 2 hameaux, Lissighaus ou la Maison d'Elisabeth et le Schönenboden. Les fruits de la terre ne viennent plus sur ces hauteurs. Un tapis vert d'une fraîcheur alpestre recouvre toute la vallée et s'élève sur les flancs des montagnes, au-dessus desquels des masses d'énormes rochers portent vers le ciel leur sauvage grandeur. À 1/4 lieue de l'église, près de Lissighaus, à côté d'un sentier qui conduit dans les pacages au-delà de la rivière, se trouve encore maintenant une maison isolée. La tradition rapporte que le bois nécessaire à sa construction fut jadis abattu sur la place même. Tout indique qu'elle a été construite dans des temps reculés. Les murs sont minces, les fenêtres ont de petites vitres rondes, le toit est formé de bardeaux chargés de pierres pour empêcher que le vent ne les emporte. Devant la maison jaillit une source limpide. Dans cette maison vivait vers la fin du XVe siècle un homme nommé Zwingli, amman ou bailli de la commune. La famille des Zwingli était ancienne et en grande estime parmi les habitants de ces montagnes. Barthélemy, frère du bailli, d'abord curé de la paroisse et depuis 1487 doyen de Wessen, jouissait dans le pays d'une certaine célébrité. La femme de l'amant de Wildhaus, Marguerite Meili, dont le frère nommé Jean fut plus tard abbé du couvent de Fischingen en Turgovie, lui avait déjà donné deux fils, Hein et Klaus, lorsque le premier jour de l'an 1484, 7 semaines après la naissance de Luther, un troisième fils qui fut nommé Ulrich naquit dans ce solitaire chalet. 5 autres fils, Jean, Wolfgang, Barthélemy, Jacques, André et une fille, Anna, vinrent encore enrichir cette famille alpestre. Personne dans la contrée n'était plus vénéré que l'aman Zwingli. Son caractère, sa charge, ses nombreux enfants en faisaient le patriarche de ces montagnes. Il était berger ainsi que ses fils. À peine les premiers jours de mai venaient-ils faire épanouir les montagnes que le père et les enfants partaient pour les pâturages avec leurs troupeaux, s'élevant peu à peu de station en station et parvenant ainsi vers la fin de juillet aux sommités les plus élevées des Alpes. Alors ils commençaient à redescendre graduellement vers la vallée et tout le peuple de Wildhaus rentrait en automne dans ses humbles cabanes. Quelquefois, durant l'été, les jeunes gens qui avaient dû rester dans les habitations, avides de l'air des montagnes, partaient en troupe pour les chalets, en unissant leur voix aux mélodies de leurs instruments rustiques, car tous étaient musiciens. À leur arrivée sur les Alpes, les bergers les saluaient de loin de leurs cornets et de leurs chants, puis ils leur présentaient une collation de laitage. Ensuite, la bande joyeuse, après des tours et des détours, redescendait dans la vallée au son de ses musettes. Ulrich, dans son jeune âge, se joignit sans doute quelquefois à ces jeux. Il grandit au pied de ces rocs qui semblent éternels et dont les cimes montrent les cieux. « J'ai souvent pensé, dit l'un de ses amis, que rapproché du ciel sur ces sublimes hauteurs, il y contracta quelque chose de céleste et de divin. » Il y avait de longues soirées pendant l'hiver dans les cabanes de Wildhaus. Alors le jeune Ulrich écoutait près du foyer paternel les conversations du bailli et des anciens de la commune. Il entendait raconter comment les habitants de la vallée avaient gémi autrefois sous un joug très dur. Il tressaillait de joie avec les vieillards à la pensée de l'indépendance que le Toggenburg avait acquise et que l'alliance avec les Suisses lui avait assurée. L'amour de la patrie s'allumait dans son cœur. La Suisse lui devenait chère, et si quelqu'un prononçait une parole défavorable aux confédérés, l'enfant se levait aussitôt et défendait leur cause avec chaleur. Souvent encore, on le voyait assis paisiblement dans ses longues soirées au pied de sa pieuse grand-mère. Les yeux fixés sur elle, il écoutait ses récits bibliques, ses dévotes légendes, et les recevait avec avidité dans son cœur. Livre 8, chapitre 2. Le jeune Ulrich, Ulrich à Wessen et à Bâle, à Berne, le couvent des Dominicains, Jetser, les apparitions, la passion du frère Lé, l'imposture, découverte et supplice, Zwingli à Vienne, à Bâle, la musique à Bâle, Wittenbach enseigne l'évangile, Léon Judas, la cure de Glaris. Le bon amant se réjouissait des heureuses dispositions de son fils. Il comprit qu'Ulrich pourrait faire autre chose que garder ses vaches sur le mont Saint-Is en chantant les ranses de berger. Un jour, il le prit par la main et se dirigea avec lui vers Wessen. Il traversa les croupes verdoyantes de l'amont et descendit un sentier étroit qui est comme suspendu aux rochers sauvages et hardis qui bordent le lac de Wallenstadt. Arrivé au bourg, il entra chez son frère le doyen et lui confia le jeune montagnard afin qu'on examinât quelles étaient ses capacités. Ce qui le distinguait, surtout, c'était une horreur naturelle du mensonge et un grand amour de la vérité. Il raconte lui-même qu'un jour, lorsqu'il commençait à réfléchir, la pensée lui vint que le mensonge devait être puni plus sévèrement que le vol même. Car, ajoute-t-il, la véracité est la mère de toutes les vertus. Le doyen aima bientôt son neveu comme un fils. Charmé de la vivacité de son esprit, il confia son instruction à un maître d'école qui, en peu de temps, lui apprit ce qu'il savait lui-même. À 10 ans, on remarquait déjà dans le jeune Ulrich les signes d'un esprit élevé. Son père et son oncle résolurent de l'envoyer à Bâle. quand l'enfant du Toggenburg arriva dans cette célèbre cité, avec cette droiture, cette netteté de cœur qu'il semblait avoir puisé dans l'air pur de ces montagnes, mais qui venait de plus haut, un monde tout nouveau s'ouvrit devant lui. L'éclat du fameux concile de Bâle, l'université que Pie II avait fondée en 1460 dans cette ville, les imprimeries qui ressuscitaient les chefs-d'œuvre de l'Antiquité et qui répandaient dans le monde les premiers fruits du réveil des lettres, le séjour d'hommes distingués, des Wessel, des Wittenbach et en particulier du prince des savants, du soleil des écoles, d'Erasme, rendaient Bâle à l'époque de la Réformation l'un des grands foyers des Lumières en Occident. Ulrich entra dans l'école de Saint-Théodore, un homme d'un cœur affectueux et d'une douceur rare à cette époque parmi les instituteurs, Grégoire Binsley y enseignait. Le jeune Zwingli y fit de rapides progrès. Les disputes savantes de mode alors parmi les docteurs des universités étaient descendues jusqu'aux jeunes garçons des écoles. Ulrich y prit part. Il exerça ses forces naissantes contre les enfants des autres institutions et fut toujours vainqueur dans ces luttes par lesquelles il préludait à celle qui devait renverser en Suisse la papauté. Ses succès remplirent de jalousie ses rivaux plus âgés que lui. Bientôt, l'école de Bâle fut dépassée par lui, comme l'avait été celle de Wessen. Un savant distingué, Lupulus, venait d'ouvrir à Berne la première école savante fondée en Suisse. Le bailli de Wildhaus et le curé de Wessen résolurent d'y envoyer leur enfant. Zwingli quitta en 1497 les plaines riantes de Bâle et se rapprocha de ces hautes Alpes où il avait passé son enfance et dont il découvrait de Berne les cimes neigeuses dorées par l'éclat du soleil. Lupulus, poète distingué, introduisit son élève dans le sanctuaire des lettres classiques, retraite inconnue alors, dont quelques initiés seulement avaient passé le seuil. Le jeune néophyte respirait avec ardeur ces parfums d'antiquité. Son esprit se développa, son style se forma, il devint poète. Parmi les couvents de Berne se distinguait celui des dominicains. Ces moines étaient engagés dans une querelle grave avec les franciscains. Les derniers maintenaient la conception immaculée de la Vierge que les premiers niaient. Partout où ils portaient leurs pas, devant les riches autels qui décoraient leur église et entre les 12 colonnes qui en supportaient les voûtes, les dominicains ne pensaient qu'à humilier leurs rivaux. Ils remarquèrent la belle voix de Zwingli. Ils entendirent parler de son intelligence précoce et, pensant qu'il pouvait jeter de l'éclat sur leur ordre, ils s'efforcèrent de l'attirer à eux et l'invitèrent à demeurer dans leur couvent jusqu'à l'époque où il pourrait y faire son noviciat. Tout l'avenir de Zwingli était menacé. La manne de Wildhaus, ayant appris les appâts auxquels les dominicains avaient recours, trembla pour l'innocence de son fils et lui ordonna aussitôt de quitter Berne. Zwingli échappa ainsi à ses enceintes monastiques dans lesquelles se précipita volontairement Luther. Ce qui se passa plus tard peut nous faire comprendre l'imminence du danger que Zwingli courut alors. Une grande agitation régnait en 1507 dans la ville de Berne. Un jeune homme de Zurich nommé Jean Jetzer, s'étant présenté un jour à ce même couvent des dominicains, en avait été repoussé. Le pauvre garçon, désolé, était revenu à la charge et tenant en main 53 florins et des étoffes de soie. « C'est tout ce que je possède, » avait-il dit. « Prenez-le et me recevez dans votre ordre. » Il fut admis le 6 janvier parmi les frères Lé. Mais dès la première nuit, un bruit singulier qui se fit dans sa cellule le remplit de terreur. Il s'enfuit au couvent des Chartreux, d'où il fut renvoyé à celui des Dominicains. La nuit suivante, veille de la fête de Saint-Mathias, de profonds soupirs le réveillèrent. Il ouvrit les yeux et découvrit près de son lit un grand fantôme blanc. « Je suis, dit une voix sépulcrale, une âme échappée au feu du purgatoire. » Le frère Lé, tremblant, répondit « Dieu te sauve, moi je n'y puis rien. » Alors l'esprit s'avança vers le pauvre frère et, le saisissant par la gorge, lui reprocha avec indignation son refus. Jetzer, plein d'effroi, s'écria « Que puis-je donc pour te sauver ?»« Flagelle-toi pendant 8 jours jusqu'au sang et demeure prosterné contre terre dans la chapelle de Saint-Jean. » Ainsi répondit l'esprit, puis il disparut. Le frère Lé confia cette apparition à son confesseur prédicateur du couvent et, d'après son conseil, se soumit à la discipline demandée. Bientôt, on raconta dans toute la ville qu'une âme s'était adressée aux dominicains pour être délivrée du purgatoire. On abandonne les franciscains et chacun accourt dans l'église où l'on voit le saint homme prosterné contre terre. L'âme du purgatoire avait annoncé qu'elle reparaîtrait dans 8 jours. La nuit fixée, elle apparut en effet accompagnée de 2 esprits qui la tourmentaient et qui faisaient entendre d'horribles gémissements. « Scott, dit-elle, Scott, inventeur de la doctrine des franciscains sur la conception immaculée de la Vierge et parmi ceux qui souffrent avec moi de si vives douleurs. » À cette nouvelle, bientôt répandue dans Berne, les partisans des franciscains furent encore plus épouvantés, mais l'âme, en disparaissant, avait annoncé la visite de la Vierge elle-même. En effet, au jour indiqué, le frère, étonné, vit apparaître Marie dans sa cellule. Il n'en pouvait croire ses yeux. Elle s'approcha avec bonté, lui remit 3 larmes de Jésus, 3 gouttes de son sang, un crucifix et une lettre adressée au pape Jules II, qui, dit-elle, était l'homme choisi de Dieu pour abolir la fête de sa prétendue immaculée conception. Puis, s'approchant encore davantage du lit où le frère était couché, elle lui annonça d'une voix solennelle qu'une grande grâce allait lui être faite. Elle lui perça la main d'un clou. Le frère Lé poussa un horrible cri. Mais Marie lui enveloppa la main d'un linge que son fils, dit-elle, avait porté lors de la fuite en Égypte. Cette blessure ne suffisait pas pour que la gloire des dominicains égalât celle des franciscains. Jetser devait avoir les 5 blessures de Christ et de saint François aux mains, aux pieds et aux côtés. Les 4 autres lui furent faites, puis, après lui avoir donné un breuvage, on le plaça dans une salle tapissée de tableaux qui représentaient la passion du Seigneur, où il passa dans le jeûne de longues journées et où bientôt son imagination s'enflamma. Alors on commença à ouvrir de temps en temps les portes de cette salle au peuple qui venait en foule contempler avec un dévot étonnement le frère aux 5 plaies étendant les bras, penchant la tête, imitant par ses poses et ses gestes le crucifiement du Seigneur. Quelquefois, hors de lui-même, il écumait, il semblait rendre l'âme. « Il endure la croix de Christ » murmurait-on autour de lui. La multitude, avide de miracles, remplissait sans cesse le couvent. Des hommes dignes d'une haute estime, Lupulus lui-même, le maître de Zwingli, était rempli de crainte, et les dominicains, du haut de la chaire, exaltaient la gloire dont Dieu couvrait leur ordre. Cet ordre avait senti depuis quelques années la nécessité d'humilier celui des franciscains et d'augmenter par des miracles le respect et la libéralité du peuple. On avait choisi pour théâtre de ces opérations Berne, ville simple, rustique et ignorante, avait dit le sous-prieur de Berne au chapitre tenu à Wimpfen sur le Necker. Le prieur, le sous-prieur, le prédicateur et le pourvoyeur du couvent s'étaient chargés des principaux rôles. Mais ils ne surent pas les jouer jusqu'à la fin. Une nouvelle apparition de Marie ayant eu lieu, Jetser crut reconnaître la voix de son confesseur. Et, l'ayant dit tout haut, Marie disparut. Elle se montra bientôt de nouveau pour censurer le frère incrédule. « Cette fois, c'est le prieur !» s'écria Jetser en se jetant en avant, un couteau à la main. La sainte lança un plat d'étain à la tête du pauvre frère et disparut encore. Consternés de la découverte que Jetser venait de faire, les dominicains cherchèrent à se débarrasser de lui par le poison. Il s'en aperçut et, s'étant enfui, révéla leur imposture. Ils firent bonne contenance et envoyèrent des députés à Rome. Le pape chargea son légat en Suisse et les évêques de Lausanne et de Sion de juger la chose. Les 4 dominicains, convaincus, furent condamnés à être brûlés vifs et le 1er mai 1509, ils furent consumés par les flammes en présence de plus de 30 000 spectateurs. Cette affaire retentit dans toute l'Europe et en dévoilant une des plus grandes plaies de l'Église, elle prépara la Réformation. Tels étaient les hommes aux mains desquels le jeune Ulrich Zwingli échappa. Il avait étudié les lettres à Berne. Maintenant, il devait se livrer à la philosophie et il se rendit à cet effet à Vienne, en Autriche. Un jeune Saint-Gallois, Joachim Valdian, dont le génie promettait à la Suisse un savant et un homme d'État distingué, Henri Loretti du canton de Glaris, communément appelé Glaréan, et qui semblait devoir briller parmi les poètes, un jeune Souabe, Jean Eigerlin, fils d'un forgeron, et appelé à cause de cela Faber, d'un caractère souple, amateur des honneurs et de la gloire et qui annonçait toutes les qualités d'un courtisan, tels étaient dans la capitale de l'Autriche les compagnons d'études et de divertissement d'Ulrich. Zwingli revint en 1502 à Wildhaus, mais en revoyant ces montagnes, il sentit qu'il avait bu à la coupe de la science et qu'il ne pouvait plus vivre au milieu des champs de ses frères et des bêlements de leurs troupeaux. Il avait 18 ans. Il se rendit à Bâle pour y retrouver les lettres. Et là, à la fois maître et disciple, il enseignait à l'école de Saint-Martin et étudiait à l'université. Il put dès lors se passer des secours de son père. Il prit peu de temps après le grade de maître S.A.R. Un Alsacien nommé Capiton, qui avait 9 ans de plus que lui, y fut au nombre de ses meilleurs amis. Zwingli se livra à l'étude de la théologie scolastique, car, appelé à combattre un jour ses sophismes, il en devait explorer l'obscur labyrinthe. Mais on voyait souvent le joyeux étudiant des montagnes du Saintis secouer tout à coup cette poussière de l'école et, faisant succéder les jeux à ses philosophiques travaux, saisir le luth ou la harpe, ou le violon ou la flûte, ou le tympanon ou le cornet à bouquin, ou le cor de chasse, tirer de ses instruments des sons allègres, comme aux prairies de Liggis House, faire retentir sa chambre ou la demeure de ses amis, des airs de sa patrie, et y mêler les accents de sa voix. Il était pour la musique un véritable enfant du Toggenburg, un maître entre tous. Il jouait des instruments que nous avons nommés, et d'autres encore. Plein d'enthousiasme pour cet art, il en répandit le goût dans l'université, non qu'il cherchât la dissipation, mais parce qu'il aimait à délasser ainsi son esprit, fatigué par les études sérieuses, et à se mettre en état de retourner avec plus de zèle à de difficiles travaux. Personne n'avait l'humeur plus gaie, un caractère plus aimable, une conversation plus attrayante. C'était un arbre vigoureux des Alpes, se développant dans toute sa grâce et toute sa force, et qui n'ayant point encore été émondé, jeté de tous côtés de robustes rameaux. Le moment devait venir où ces rameaux se tourneraient avec puissance vers le ciel. Après avoir forcé l'entrée de la théologie scolastique, il ressortit de ces landes arides, fatigué, dégoûté, n'ayant trouvé que des idées confuses, un vain babil, de la vaine gloire, de la barbarie, mais pas une idée saine de doctrine. « C'est une perte de temps, » dit-il, et il attendait. Alors, c'était en novembre 1505, arriva à Bâle Thomas Wittenbach, fils d'un bourgmestre de Bienne. Wittenbach avait enseigné jusqu'alors à Tübingen, à côté de Röchlin. Il était dans la force de l'âge, sincère, pieux, savant dans les arts libéraux, dans les mathématiques, dans la connaissance des saintes écritures. Zwingli et toute la jeunesse académique se pressèrent aussitôt autour de lui. Une vie inconnue jusqu'alors animait ses discours, et des mots prophétiques s'échappaient de ses lèvres. « Le temps n'est pas loin, disait-il, où la théologie scolastique sera abolie et l'ancienne doctrine de l'Église restaurée. La mort du Christ, ajoutait-il, est la seule rançon de nos âmes. » Le cœur de Zwingli recevait avec avidité ces semences de vie. C'était alors l'époque où les études classiques commençaient à remplacer partout la scolastique du Moyen-Âge. Zwingli, comme ses maîtres et ses amis, se jeta dans cette voie nouvelle. Parmi les étudiants qui suivaient avec le plus d'enthousiasme les leçons du nouveau docteur, se trouvait un jeune homme de 23 ans, d'une petite stature, d'une apparence faible et maladive, mais dont le regard annonçait à la fois la douceur et l'intrépidité. C'était Léon Judas, fils d'un curé alsacien et dont un oncle était mort à Rhodes sous l'étendard des chevaliers teutoniques pour la défense de la chrétienté. Léon et Ulrich s'étaient intimement liés. Léon jouait du tympanon et avait une fort belle voix. Souvent, c'était dans sa chambre que se faisaient entendre les chants joyeux des jeunes amis des arts. Léon Judas devint plus tard le collègue de Zwingli et la mort même ne put détruire une si sainte amitié. La place de pasteur de Glaris devint alors vacante. Un jeune courtisan du pape, Henri Godely, palefrenier de sa sainteté, et déjà revêtu de plusieurs bénéfices, accourut à Glaris avec une lettre d'appointement du pontife. Mais les bergers glaronnais, fiers de l'antiquité de leur race et de leur combat pour la liberté, n'étaient pas disposés à baisser la tête devant un parchemin de Rome. Wildhaus n'est pas loin de Glaris, et Wessen, dont l'oncle de Zwingli était curé, est le lieu où se tient le marché de ce peuple. La réputation du jeune maître S.R. de Bâle avait pénétré jusque dans ces montagnes. C'est lui que les Glaronnais veulent avoir pour prêtre. Ils l'appellent en 1506. Zwingli, consacré à Constance par l'évêque, fit son premier sermon à Rapperswil, lut sa première messe à Wildhaus le jour de la Saint-Michel en présence de tous ses parents et des amis de sa famille, et arriva vers la fin de l'année à Glaris.